بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا يوم الدين وبعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب زدنا علما يا كريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي شفاغ السنة nous restons dans le verset 54 de la sourate Al-An'am qu'on avait commencé à commenter avant-hier, et que nous allons, Inch'Allah, compléter aujourd'hui, parce qu'il y avait trois thématiques dans ce verset. On ne parle pas d'une sourate, on ne parle pas d'un juz, on ne parle pas d'un quart de juz ou de sipara, ni d'une page. On parle, subhanallah, d'un verset. Et d'un verset qui tient en une ligne et demie dans un mushaf. C'est le verset qu'on a dit, « وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةِ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » Ikhwani fillah, ce verset n'est pas plus long que « إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ » et les plus quoi que l'asri inna l'insan la fi khusr, ou d'autres petits versets plus quoi que surat al-ikhlas. Pourtant, vous voyez que on a dû consacrer 3 jours pour commenter à raison d'intervention limitée à 30-40 minutes maximum par prise de parole bi'idhnillah. Ça veut bien dire que la parole d'Allah, ikhwani wa akhawati fillah, elle est immensément riche et c'est une source de lumière extraordinaire. Et dans un verset divin, nous pouvons avoir une richesse en termes d'information et en termes de hidayah, une source de guidée qui est exceptionnelle. Je dis souvent dans les programmes de tafsir qu'on fait bi'idhnillah ou la tanier, que ikhwani fillah, prenez n'importe quel verset du Coran qu'on étudie. Avant le mois de Ramadan, on était à la sourate Nuh, il me semble. Et pendant le confinement, on avait commencé la sourate Al-Muzammil. Et on a l'habitude de dire aux personnes qui sont présentes au cours de tafsir, prenez n'importe quel verset qu'on étudie, n'importe quel verset du Coran. Un seul verset peut être une source de guidée et d'inspiration pour vous durant toute une vie, pour vous et pour toute votre famille. Tellement la parole d'Allah est riche. N'oublions jamais que c'est Kalamullah. En Aqida, les ulama disent que la parole d'Allah, c'est sifa. C'est une qualité, c'est une sifa d'Allah Azza wa Jal. Et quand Allah nous révèle le Coran, il faut savoir que c'est ce qu'il y a de plus pur. Et c'est ce qu'il y a de plus munawwar, de plus illuminé sur cette terre. Il n'y a rien de mieux, de plus puissant que le Coran pour le croyant. Personne ne pourra se rapprocher d'Allah uniquement avec ses actes d'adoration. Parce que même si les actes d'adoration, je reprends mes termes et je précise, même si les actes d'adoration sont faits, notre devoir est accompli. Mais ce que je voulais dire, l'élévation spirituelle, atteindre de hauts niveaux de iman, atteindre la taqwa, atteindre le ihsan et atteindre ce qui est très rare à notre époque, ressentir la douceur de la foi, la halawatul iman, cela ne sera possible qu'à partir du moment où ma foi reste branchée et connectée de façon permanente à la parole d'Allah. C'est vraiment notre source de guider. Hudal lil muttaqin, zalika al kitab la rayba fihi, hudal lil muttaqin, une guidée pour les pieux. C'est pour ça que nous nous attardons dans la sourate Al-An'am et que nous avons essayé de dégager 3 grandes thématiques. Premièrement, le ihsan, la bienveillance envers les personnes qui se présentent à nous à propos de la religion. Et quelle est l'éthique du croyant, du da'iya et du savant, du alim par rapport à ces personnes? C'est ce qu'on avait expliqué avant-hier. Et hier, on a commenté, on a essayé d'expliquer le fait qu'Allah soit clément et miséricordieux. Et on avait conclu avec le fait qu'il est impératif pour chacun d'entre nous de faire preuve de clémence et de miséricorde dans notre relation avec notre prochain, en commençant par nos parents, nos grands-parents, notre épouse, nos enfants, la famille éloignée et l'ensemble de la Oumma et des créatures d'Allah. D'une façon générale, s'il n'y a pas de rahma dans le cœur, on n'avancera jamais. car un cœur qui est dur, un cœur qui n'a pas de bienveillance et de rahma, c'est un cœur qui ne bénéficiera pas de la clémence d'Allah, sachant qu'Allah aura de la pitié pour ceux qui ont de la pitié pour le prochain. C'est l'enseignement issu du hadith qu'on avait commenté hier en conclusion. Donc voilà pourquoi on reste dans la sourate Al-An'am et on ne parcourt pas différents ajza cette année. La troisième thématique, il pourrait y en avoir d'autres encore, mais on se limite à ça. La troisième thématique de ce verset, c'est « ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ » Et quiconque donc d'entre vous a fait un mal par ignorance, et ensuite s'est repenti et s'est réformé, il est alors pardonneur et miséricordieux. Et Ibn Kathir, rahimahullah, dans son tafsir al-Qur'an al-Azim, il donne une précision concernant le fameux terme « a fait un mal par ignorance ». On a saisi peut-être le mot « bijahala » et pour ceux qui ont quelques notions de langue arabe, on sait que « jahala » ça vient de « al-jahl », c'est l'ignorance. Ça veut dire quoi ? Accomplir un péché par ignorance. Déjà, on écarte le fait d'accomplir un péché parce qu'on ne savait pas que c'était haram. Non, ce verset ne cible pas cette situation. Parce que les savants disent que de façon générale, l'homme qui ne connaît pas qu'une action est haram et qu'il accomplit, ce péché n'est pas considéré par un péché auprès d'Allah. Maintenant, il est de son devoir de connaître le halal et le haram. Mais ça a été précisé par le prophète alayhi salatu wa sallam, rufi'a an ummati al-khata wa nisyan ila akhir al-hadith, que les choses qui sont pardonnées à ma umma, ce sont les mauvaises actions accomplies par erreur, donc par inadvertance, an nisyan, par oubli, et avec ça, il y a les actions qui ont été qu'on a accomplies par contrainte. Et on peut rajouter à ça qu'on ne connaissait pas. Quelqu'un qui ne connaissait pas que tel péché, que tel acte est haram, il l'accomplit, Allah est pardonneur. Ce que Ibn Kathir, rahimahullah, souligne dans son tafsir, c'est « Kullu man asa Allaha fahuwa jahil » dit que la porte est ouverte à toute personne qui a désobéi à Allah Azza wa Jalla, car toute personne qui désobéit à Allah est en fait un jahil, un ignorant. Ignorant par rapport au fait que la personne qui accomplit un péché ignore et ne réalise pas réellement les conséquences de ce péché. Ainsi, tout acte de désobéissance entre dans l'accomplissement de ce péché. Et Imam al-Barawi, rahimahullah, donne une précision concernant le terme bijahala. Il dit que jahil, jahilun bima yurithuhu dhalika dhanbu, et que cette personne ignore ce que ce péché va entraîner comme conséquence. Ça fait partie du jahl. Il donne une autre précision, jahalatuhu min haythu annahu athar al-ma'siyata 'ala at-ta'a. Cette personne est un ignorant parce qu'il a donné préférence à la désobéissance aux ordres d'Allah plutôt qu'à l'obéissance et la fermeté de la foi. Cette personne est un ignorant également parce qu'il a favorisé al-ajilul qalil, c'est magnifique ce qu'il dit, al-ajilal qalila al-ajilil kathir, c'est très beau. Et c'est vraiment les grands savants qui ont cette maîtrise, pas seulement de la langue arabe, mais du sens du Coran. Il dit que celui qui désobéit à Allah est en fait un jahil, par un ignorant, parce qu'il a donné préférence à un plaisir immédiat, mais qui est limité dans le temps et très court, plutôt qu'à une récompense, une rétribution future qui, elle, sera grandiose. Il y a que si, par exemple, je me laisse aller à l'adultère ou à n'importe quel péché, d'accord, où j'ai décidé de mentir pour me défendre dans une situation conflictuelle, j'ai préféré le confort du péché ou alors l'apport du plaisir qu'il y a de le péché, tout en sachant que ce plaisir sera très court dans la durée. Et ikhwani fillah, khawati fillah, c'est Shaytan en fait qui a ce don, cette possibilité, ce pouvoir entre guillemets, de nous faire miroiter le péché. Dans le Coran, on parle de Afaman zuyina lahu su'u amalihi. Zayyana yuzayyinu, c'est embellir. En fait, c'est Shaitan qui embellit les péchés aux yeux de l'homme, jusqu'à ce que l'être humain finit par considérer ce péché comme, franchement, le summum en termes de plaisir qu'il doit essayer d'obtenir dans sa vie. Et une fois le péché accompli, cette personne se rend compte qu'il n'y avait pas grand-chose à gagner dans cette désobéissance, et c'est là que les remords vont ronger son cœur. C'est une des tentative, un des plans de Shaitan qui nous fait sombrer dans le péché, que d'embellir le péché à nos yeux et à nos cœurs. Donc, ikhwani fillah, ce que Al-Barawi dit, c'est que cette personne qui a désobéi à Allah a succombé à un plaisir immédiat, et en ignorant que ce plaisir allait être de très courte durée, et il a favorisé cela à la rétribution divine pour celui qui se protège et se préserve pour Allah Rabbul Izzah. Il a préféré le plaisir de ce dunya à la rétribution du Jannah. C'est pour ça que nous sommes tous des jahils lorsque nous accomplissons un péché. Maintenant, si je me permets un rajout personnel et un parallèle avec un autre hadith, quand on avait stipulé hier, la compréhension des versets fait appel à multiples connaissances religieuses, un panel de versets et de hadiths. C'est un puzzle qui constitue la connaissance religieuse, et personne ne va atteindre le sommet, mais on essaie. Mais plus on a d'éléments, plus on peut essayer de comprendre le Coran. Il y a un hadith qui montre une limite de le pardon, et je pense qu'on peut juxtaposer ce hadith à ce verset, celui qui accomplit par ignorance, on pourrait peut-être exclure celui qui le fait délibérément et ouvertement, plutôt celui qui le fait ouvertement, celui qui sait pertinemment que ce péché, que cet acte est haram, mais qui le fait en plus, il le fait ouvertement, il laisse les gens voir ce péché, cette personne. C'est presque cette personne, na'oudhu billah, il est en train, entre guillemets, de défier son Seigneur et de montrer à Allah et aux créatures d'Allah qu'il n'a, astaghfirullah, rien à faire de ses limites. La hawla wa la quwwata illa billah. Et c'est pour ça que le prophète, alayhi salatu wa salam, nous a rappelé que chaque pécheur trouvera le pardon d'Allah, illa al-mujahirin, à l'exception de ceux qui le font alanan, qui le font ouvertement, et ouvertement de le sens sans honte, sans haya, comme on dit chez nous, sans sharam, sans pudeur, sans penser même au regard d'Allah sur lui, mais sans penser également au regard des gens. C'est le cas par exemple d'un jeune homme, un jeune musulman, qui sortirait avec une jeune fille et qui se promène dans la rue, je prends des noms de rues connus chez nous, dans la rue Maréchal Leclerc par exemple, pour Saint-Denis Centre-Ville, et ou la rue des Bons Enfants pour la ville de Saint-Pierre, ou d'autres rues, je ne connais pas les rues des autres grandes villes de La Réunion, et qui donc se promène avec sa fiancée, sa copine, comme on dit chez nous, sa tantine, peu importe, et qui va l'embrasser, qui va s'enlacer en public, en pleine sortie de mosquée où les gens voient. C'est-à-dire que cette personne ne se soucie guère du regard d'Allah sur lui, ni du regard des gens. Il est en train presque de désacraliser ce péché et de montrer ouvertement qu'il n'a aucune limite. La hawla wa la quwwata illa billah. Ça me dit que cette personne-là ne trouvera pas le pardon divin. Qu'Allah nous protège de cet état spirituel. C'est les plus bas fonds de la spiritualité, de la foi, où on désobéit à Allah Rabbul Izzah délibérément, contrairement à celui qui va faire un péché mais qui va se cacher. Et bien sûr, il sait qu'il ne se cachera pas du regard d'Allah, mais au moins il éprouve une certaine haya. Ça ne veut pas dire pour autant que le péché est moins grave, mais il a au moins cette pudeur. Donc on pourrait faire ce parallèle avec ce verset, celui qui par contre le fait en défiant, na'oudhu billah, l'autorité d'Allah, ben ça c'est un cas beaucoup plus grave. Et pour lui, il y a besoin un jour d'une prise de conscience et d'un tawbatun nasuha. C'est un long cheminement spirituel, mais la porte du tawba reste toujours ouverte. Et on avance dans ce verset, justement, les muhaddis, les mufassirines précisent, Allah accepte le pardon de toute personne qui a désobéi à Allah par ignorance, dans le sens qu'on a commenté, et qui à un moment donné revient vers son Seigneur. Et voilà pourquoi est-ce qu'on peut faire le parallèle avec ce dernier hadith. Parce que celui qui défie, na'oudhu billah, son Seigneur en le désobéissant ouvertement, mais lui ne reviendra pas de lui-même vers Allah. Il n'aura pas ce cheminement « thumma taba min ba'dihi ». Non, parce qu'il va rester, il va être enflé d'orgueil et il ne reconnaîtra pas ses erreurs. Toute personne qui finit par reconnaître ses erreurs, c'est quelqu'un qui, à un moment donné, va faire ce qu'on appelle al-istislamu lillah. Et al-istislamu lillah, mes chers frères et sœurs, c'est un terme qu'on a souvent cité dans les audios. C'est une qualité de foi qui est essentielle. C'est la soumission à Allah. Et c'est l'essence même de notre appartenance à l'islam. Nous sommes des musulmans. Et le musulman, c'est celui qui s'est soumis à Allah, Azza wa Jal. On a eu l'occasion d'expliquer c'est quoi la soumission dans la salat. Mais à nous de comprendre c'est quoi la soumission à notre Seigneur de façon générale. Quand quelqu'un reconnaît ses fautes et demande pardon, c'est qu'il a trouvé le chemin de la soumission via son Seigneur. Et quand on se soumet à Allah, Allah Rabbul Izzah accepte ce geste d'humilité et de reconnaissance de notre position de makhlouq, de créature, et qu'on s'en remet à Allah. C'est pour ça que la porte du tawbah reste grande ouverte, chers frères et sœurs. Pour aucun péché qu'on ait pu accomplir ou cumuler pendant des années, pour aucun péché, les portes se ferment. Bil'aksi, au contraire, les portes du Tawbah restent grandes ouvertes auprès de notre Seigneur, principalement durant ce mois béni. Il nous demande, Allah nous demande une seule chose, de reconnaître nos erreurs, de baisser la tête, de faire preuve d'humilité et de se prosterner devant lui et de lui demander pardon. Même si, et c'est un exemple que je donne souvent aux jeunes, on a un groupe de jeunes, bi'idhnillah, qui nous apporte énormément. Et je leur adresse mes sincères salams, parce que nous venons d'avoir un programme en privé avec eux, un programme de 2 heures, mashallah, accompagné de Cheikh Shawkat Limbada qui était avec nous cet après-midi. Et ces jeunes-là nous apportent énormément parce qu'ils nous permettent de voir le monde par leurs yeux. Un prisme différent, une tranche d'âge qui n'est plus la nôtre, mais de percevoir les plaisirs peut-être, les tentations de ce monde, d'un regard qui n'est peut-être plus le nôtre, et de comprendre quels sont les mécanismes de waswasa de shaitan, d'insufflation du diable, qui peuvent atteindre un cœur et nous permettre de nous remettre en question et de donner les bons conseils. Alhamdulillah. Donc, on disait qu'on rappelle souvent aux jeunes et aux moins jeunes que même si durant ma jeunesse, à partir de 18 ans jusqu'à l'âge de 25 ans, jusqu'à mon mariage on va dire, pendant 7 ans, tous les samedis soirs, j'allais à Saint-Gilles, j'allais à, je ne sais même pas le nom des endroits où il y a les boîtes de nuit, on sait que c'est dans l'Ouest, et je sortais en boîte de nuit avec mes amis et que tous les samedis, c'est-à-dire ça me ramène à 52 samedis dans l'année. Si on enlève les 4 samedis, alhamdulillah, du mois de Ramadan, ça fait 48, pardon. Ou s'il y en a 5, 47 samedis de l'année, j'allais en boîte de nuit. Et en boîte de nuit, j'écoutais la musique, je dansais, je consommais de l'alcool, j'entamais une relation avec une demoiselle. Et ça se terminait en zina, en adultère. Voilà, hawla wa la quwwata illa billah. Si telles étaient mes 7 années. Depuis que j'étais majeur jusqu'à mon mariage, ça ne veut pas dire pour autant que je me suis trop éloigné d'Allah. Certes, je me suis éloigné considérablement de mon Seigneur parce qu'en même temps, en allant en boîte de nuit, je m'expose et tout le monde voit, me connaît, je suis un musulman et j'accomplis. Donc, j'entre dans le cercle de ceux qui désobéissent à Allah délibérément. Mais si à un moment donné, subhanallah, je trouve la lumière et il y a un déclic spirituel et je décide de revenir vers mon Seigneur et que mon cœur se soumet à Allah, je regrette mes erreurs, ikhwani fillah, les portes du Tawbah resteront toujours grandes ouvertes. N'écoutez pas ceux qui ont la morale facile. Et cela, ils méritent profondément. Ceux qui se sont installés sur un piédestal et qui se permettent d'observer le monde de haut et qui prennent les autres de haut et qui considèrent les pécheurs comme étant des égarés et qui disent comment est-ce que tu as pu faire telle chose, quel niveau de foi, quel, et ainsi de suite. Personne ne peut comprendre le mécanisme, comme on disait tout à l'heure, du pécheur. Qu'est-ce qui l'a amené à ce péché? J'ai connu un jeune qui, et il y en a beaucoup des cas comme ça, qui à un moment de sa vie a sombré dans l'alcool et dans les addictions de la drogue. On va dire que c'est un scénario, Wallah Musta'an, qui est classique à notre époque. Mais lui, je le connais personnellement et je connais son histoire. Qu'est-ce qui fait qu'il a chuté dans l'alcool? Il ne faut pas dénigrer cette personne qui, depuis, mashallah, est revenue vers le droit chemin, alhamdulillah. qu'est-ce qui a poussé ce jeune à sombrer vers ce haram qui pour nous est inimaginable? Nous, à notre niveau, quand on parle d'une goutte d'alcool, on va chercher, est-ce que dans, je donne des exemples classiques, l'extrait de vanille, est-ce que dans de l'éludril, est-ce que ça, oh, mashallah, on est très daqiq, hein, et ça c'est un pied de nez aussi à notre comportement, dans des choses infimes, on va chercher, est-ce que c'est jaïz, cher, c'est pas jaïz, mufti sab, est-ce que c'est bon, oui ou non. Et en dehors de ça, hadith wala haraj, en termes de bohtan, de riba, de namima, de calomnie, de zizanie au sein des couples, de fait de colporter d'autres péchés, là-dessus on est en freestyle totalement. Et quand il s'agit de rechercher ce qu'il y a du cochenil dans l'éludril où il faut prendre du paroex et tout, là c'est comme si on prend notre costume de super-héros musulman et on avance avec une loupe pour parcourir le chemin de la taqwa. Et dans d'autres domaines de la vie, ben, on est gros doigt, on désobéit à notre Seigneur et on pense que ça c'est pas la désobéissance. Il faut arrêter à un moment donné. Hein. Il faut se ressaisir. Il faut arrêter avec les questions qu'on a l'habitude de poser. Est-ce que manger des crustacés, manger des fruits de mer, c'est bon? Oui, ça fait partie de la religion, mais arrêter un petit peu de... Il faut qu'on s'arrête de se focaliser sur ça. Et parce qu'en même temps, quand il s'agit de construire notre magasin ou de faire telle chose, on va à la banque, on emprunte. On est en train d'entrer dans les péchés qui sont kabira. C'est l'hypocrisie religieuse. Il faut enlever ses œillères et rechercher vraiment l'agrément divin et ne pas se focaliser sur certaines choses. Je connais des gens qui, à un moment donné, où il y avait divergence d'opinion sur l'électronarcose, excusez-moi, à La Réunion, ils ne mangeaient pas de tel poulet, de telle chose et tout et tout. Et par contre, quand il s'agit de construire leur maison, ils allaient à la banque. Ils signaient des contrats avec des taux d'intérêt. C'est totalement incohérent et ça prouve que notre approche de la religion, elle est biaisée, elle est totalement biaisée. Mais même, ce n'est pas biaisé. C'est nous qui décidons de notre vision, de notre approche de la religion. Et qu'est-ce qu'on considère comme important et pas important? Ikhwan et fillah, revenons vers l'essentiel, vers la recherche de l'agrément divin, l'amour d'Allah, la crainte d'Allah, le respect du halal et du haram dans son ensemble. Je disais donc, et on a l'habitude de dire à ces jeunes, que même si on était dans ce mauvais chemin, n'écoutez pas ceux qui vous dénigrent et ceux qui vous tournent le dos. C'est pas parce que vous avez un vieux tonton qui est dans la mosquée H24, moi j'appelle ça un tonton flingueur du coup, hein, un vieux tonton qui ne quitte pas la mosquée et quand il voit quelqu'un dans la désobéissance, il tourne le regard, il vous dénigre totalement. Ben, ce tonton-là, moi je suis content pour lui, il est dans la mosquée tout le temps, mais il ne fait pas avancer la da'wa. Si le prophète, alayhi salatu wassalam, restait dans la mosquée de l'adoration et il dénigrait les pécheurs, ben, ceux qui avaient accompli l'adultère et d'autres péchés ne seraient jamais revenus vers le droit chemin. Il faut avoir une vision beaucoup plus large. Nous restons des êtres humains avec des qualités, mais également beaucoup de défauts, plus de défauts que de qualités. Donc n'écoutez pas ce vieux tonton qui va vous dire que non, on est dans le péché de haram, ça pas bon, ainsi de suite. S'il nous dit que c'est pas bon, certes. Mais je veux dire qu'il y a toujours moyen de revenir vers Allah. Et moi, je suis persuadé que ce jeune qui après 7 ans de galère, de péché, de haram, il revient vers Allah. Ou que ce jeune qui était dans l'alcool, moi je sais moi pourquoi il était dans l'alcool, ce jeune, je prends l'exemple précis, parce qu'il y avait un désordre pas possible, un chaos dans sa famille. Il y avait une situation qui s'était envenime à un tel point où la relation avec la famille était devenue toxique. C'est terrible ça d'avoir des parents toxiques. C'est terrible ça d'avoir des proches qui vous fusillent du regard. Et pour eux, la religion, c'est comme une flèche ou un couteau qu'ils tiennent dans la main. Et si vous sortez des limites, ils vous piquent immédiatement. C'est parfois l'image que nous donnons de la religion quand nous, on est religieux et qu'on se permet de juger les autres sur leur erreur de parcours et les dénigrer. En finalité, on risque de les dégoûter de la religion. Moi, je connais des jeunes qui ont pris des distances avec la religion parce que ils ont eu comme tuteur des gens très religieux, mais qui avaient un comportement agressif. Et à un tel point que pour eux, ils ont associé ce mauvais comportement à la rigueur dans la religion. Et du coup, ils ont tourné le dos totalement à la religion. N'est pas d'aïa qui le veut. Et comme on l'avait dit avant-hier, si on ne se sent pas capable d'avoir la sagesse et la bienveillance envers notre prochain, qu'on veut donner des conseils spirituels, il vaut mieux se taire et laisser ça pour les autres, pour ceux qui ont la connaissance, mais également les compétences. Parce qu'on peut faire fuir les gens de la religion et les dégoûter de la religion. Il y a des choses que je n'ai pas pu dire il y a quelques jours et ça me revient. Ces jeunes qui disent que oui, moi j'ai eu un professeur sévère qui m'a parfois même violenté, bousculé. Et du coup, je pratique. Ok, il y a peut-être eu un résultat. Mais comptez maintenant le nombre de jeunes qui se sont détournés de la religion parce qu'ils ont eu un fundi, un cheikh, un molissab, un professeur qui a été vraiment méchant avec eux, qui les a insultés, humiliés, et du coup, ils ont tourné le dos à la maktab, à la madrasa, et tourné le dos à la religion. Moi, je pointe du doigt directement ce mu'allim, cet enseignant, quelle que soit la grandeur de sa barbe, ou son niveau spirituel, ou quel que soit le travail qu'il fait maintenant, prépare-toi, ista'id lissu'al, prépare-toi à répondre. Prépare-toi à répondre parce que le prophète n'a jamais dégoûté quiconque de la religion. Faisons très attention dans notre prêche, dans notre da'wah, dans notre tarbiyah, dans notre ta'lim. Je le dis, je suis très remonté parce que ces quelques jours, j'ai eu d'autres retours d'éducation totalement ratée, d'éducation, je veux dire religieuse totalement ratée, qui fait que des gens se sont détournés de la religion tamamen, complètement. Et il y a des comptes à rendre à nous de faire très attention dans nos relations avec notre prochain. Ikhwan, ikhawat, ifillah. On doit se recentrer sur l'amour pour notre prochain. Aimer notre prochain qui est dans le droit chemin, mais également aimer notre prochain qui est dans le ma'asiyah, dans le péché, parce que c'est cet amour qui nous permettra de garder le lien avec lui et le ramener vers Allah Azza wa Jal, en lui montrant que les portes du Tawba sont grandes ouvertes et ne se fermeront jamais. Hada. Et on avait parlé beaucoup d'amour de Dieu hier, parce que, c'est une autre parenthèse, dans d'autres religions, on dit souvent, on dit de façon permanente, Dieu est amour. Et ces mêmes personnes parfois nous disent que oui, mais dans l'islam, il n'y a pas trop d'amour. Ben, c'est parce qu'ils n'ont fréquenté que des musulmans qui voyaient à travers l'islam une succession d'ordres et d'interdits. Il y a beaucoup de gens, quand ils voient un musulman, ils disent que ah, lui c'est un musulman, donc il ne mange pas à porc, il ne boit pas d'alcool, il n'écoute pas la musique, il ne sort pas en boîte de nuit. Et il doit aller à la mosquée 5 fois par jour et Ramadan 1 mois de l'année et donner de l'argent pour Dieu. Mais pour beaucoup de gens, l'islam est une religion contraignante. Et maintenant, je ne vous parle plus du cas des reconvertis. Quand on parle des messieurs, ah oui, il va se convertir, mais il faudra avoir recours à la circoncision, oulala, et tout, et ainsi de suite, et le mélange qu'on fait. C'est-à-dire que très souvent, les gens ont une conception, les non-musulmans, une conception très limitée de la religion. Mais parce que c'est nous qui dégageons cette image de la religion. C'est pas je suis musulman donc j'ai les mains liées au halal et au haram. J'ai les mains liées au haram et j'ai des obligations par rapport au faraïd, aux choses qui sont obligatoires. L'islam, c'est beaucoup plus vaste que ça. L'islam a commencé par le monothéisme, puis le tawhid. Et qui dit tawhid, c'est la iman billah, croire en Allah, ça implique aimer Allah. Se soumettre à lui, c'est aimer Allah, ça engendre également le fait d'aimer les créatures d'Allah. L'amour pour les créatures d'Allah, la bienveillance, la miséricorde, ainsi de suite, tout ce qu'on a cité hier et avant-hier, c'est tout ça l'islam. Et c'est encore plus présent, la notion de Dieu est amour dans l'islam que dans d'autres religions, parce que nous on va au-delà du terme amour, on a Rahman, on a Rahim, on a Karim, on a Wadoud et on a d'autres noms d'Allah en rapport avec l'amour de Dieu. On a Latif qui est peut-être le nom que j'aime le plus, Latif ou Al-Khabir, et ainsi de suite, qui est Samia Basir, dans le bon sens pour nous et pour du fait qu'Allah connaisse notre état. Il y a un verset en rapport avec le pardon qu'on avait l'intention de commenter aujourd'hui, mais il ne sera pas possible. C'est Hua A'lamu Bikum. Allah connaît mieux votre situation. Je n'ai pas la traduction exacte. Nous faisons dire que quand tu as commis ce péché, Allah savait dans quelle situation tu étais. Allah connaît ton mal d'être, Allah connaît ton malaise, Allah est bienveillant, il va t'accepter, reviens vers lui. Ikhwan ya khawati fillah, c'est ce message que nous devons véhiculer, c'est ça l'islam, l'amour de Dieu est une porte qui reste toujours ouverte et principalement de ce mois béni, où les portes du paradis sont ouvertes et les portes de l'enfer sont fermées. On a été peut-être un petit peu loin dans nos commentaires, dans nos parenthèses, mais il y a tellement de personnes qui s'éloignent de la religion à cause de nous, à cause de savants, à cause de, excusez-moi, plutôt de pseudo-savants, de ceux qui pensent avoir la connaissance, mais qui se permettent de juger les autres et de dénigrer les entre guillemets, ceux qui sont dans les péchés, et du coup, ils ne les ramènent pas vers Allah, ils les éloignent encore plus d'Allah, et il faut faire extrêmement attention à ça. كتب ربكم على نفسه رحمة. Non, plutôt le verset. أنه من عمل منكم سوءا بجهالة. Je pense qu'on a suffisamment commenté ce passage. On est avec Ibn Kathir. Il arrête les péchés et il fait un retour vers Dieu en délaissant totalement ses péchés. Et il fait l'intention ferme de ne plus commettre ce même péché. Et on avait expliqué hier, il prend des précautions. Si mon péché vient du fait que j'ai une mauvaise fréquentation, j'ai un cercle d'amis qui me mène vers tel péché, ça peut être différents péchés. Ça peut être un cercle d'amis qui m'amène vers des conversations interdites. Ribat, bohtan, namima. La calomnie, la médisance, après avoir demandé pardon à Allah pour ses péchés et fait l'intention ferme de ne plus recommencer ses erreurs et ses péchés, ce que je dois faire maintenant, c'est m'éloigner de ce cercle d'amis. Trouver d'autres camarades, s'éloigner de ces personnes afin qu'on ne retombe pas vers les mêmes péchés. Maintenant, je demande pardon et je continue à les fréquenter. Je n'ai pas pris le maximum de précautions. Ça peut être les précautions qu'on avait citées hier. Si quelqu'un est en concubinage, mais il faut arrêter. Il faut se séparer de cette personne ou idéalement, transformer ce lien en nikah, bien sûr, si les deux parties, les deux personnes ne sont pas mariées. Donc voilà, al-azmu ala admi al-auda, l'intention ferme de ne plus retourner vers le péché et prendre les précautions pour que on ne se mette plus en situation de péché. Je pense que c'est à peu près ce qu'on pouvait dire sur le tauba, la sincérité du cœur et le retour vers Allah. Et wa aslaha, Imam Barawi, rahimahullah, il a un commentaire différent. Aslaha amalahu, certes, il va réformer ses bonnes actions, ses actes d'une façon générale, c'est-à-dire faire de bonnes œuvres et ne plus faire de péché. Mais il dit également, ay akhlasa taubatahu. Et j'aime bien cette phrase. Il va être sincère dans sa demande de pardon à Allah. C'est vraiment pleurer en regrettant les erreurs et se dire, Ya Allah, dans quelle situation je me suis mis ? Où suis-je arrivé ? Ya Rab, comment est-ce que j'ai pu tomber aussi bas ? Ya Allah, comment est-ce que j'ai pu m'éloigner de toi, te désobéir autant ? Ya Allah, j'ai honte. Ya Rab, j'ai honte de m'adresser à toi. Tu es Rahman, Rahim, Rabbul Arsh, Al-Azim. Et tu me regardes alors que moi, je t'ai désobéi pendant des mois, des années, et ainsi de suite. C'est ces formules-là, mes chers frères et sœurs, que nous devons prononcer ce soir dans les tahajjud, qu'on demande pardon. Laissez vos kitabs, laissez vos écrits, laissez vos fichiers PDF où il y a des doigts, où on ne fait que lire. Laissez tout ça. Un temps pour ça, je veux dire, mais un temps majoritaire pour les paroles sincères qui doivent émerger de notre cœur. La demande de pardon, comme Barawi dit, c'est une demande qui est mukhlis, qui est sincère. C'est votre cœur qui doit parler. Ce ne sont pas des lignes que vous devez lire. Parlez avec votre cœur, avec votre Seigneur. Parlez à votre Seigneur avec votre cœur et il vous entend. Et notre Rab connaît notre sincérité. Avec notre propre langue, on n'a pas besoin des formules en arabe. Si on les connaît, alhamdoulilah, autrement, on parle en français, en créole, en chimmaoré, en mauricien, en malagasy, en vietnamien, peu importe la langue qui nous est propre, mais le faire sincèrement. Et Allah voit et connaît, alim bidat as-sudur, connaît ce qu'il y a dans les poitrines. Utilisons ces termes où on reconnaît al-i'tiraf bidh-dhunub, reconnaître comment on s'est éloigné de Dieu et comment on a été loin de nos péchés. Et c'est là qu'on demande pardon à Allah Azza wa Jal. Et ça rejoint le meilleur doua, la meilleure formule de istighfar qu'on appelle Sayyid al-istighfar, qu'on a eu l'occasion d'expliquer dans les programmes de, si je ne me trompe pas, l'étude des noms d'Allah. Il me semble que c'était dans ces programmes-là. Et on avait expliqué donc, quand on demande Allah, Man tarabbi, la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk, c'est un peu long. À un moment donné, on dit, déjà quand on dit wa ana abduk, je reconnais que je suis son serviteur. On dit, abu laka bi ni'matika alayya. Je reconnais, wa abu laka bi dhanbi. C'est ce passage-là. Ya Allah, je reconnais mes péchés. Ya Allah, je reconnais tout ce que tu m'as accordé comme bienfait. Et là, on éprouve al-haya, la honte. Comment est-ce que j'ai pu désobéir à Allah alors qu'il m'a donné la foi, la santé, la famille, une femme, des enfants, une maison, un travail, une voiture, tel bienfait, et je suis dans la désobéissance. Ça, c'est reconnaître, c'est ressentir la honte et la pudeur, la honte d'avoir désobéi à Allah alors qu'il nous a comblé de bienfaits. Wabou la kabidambi, et je reconnais, ya Allah, mes péchés. Et là, on énumère et on reconnaît et on baisse la tête et on se dit, ya Allah, j'ai été trop loin, ya Allah, mais tu es. Et c'est uniquement après avoir reconnu i'tiraf bidhunub qu'on demande farfirli fainnahu la yaghfiru dhunuba illa ant. C'est uniquement là qu'on demande à Allah, oh Allah, pardon. C'est après avoir fait les éloges d'Allah par ses noms et ses attributs, reconnaître ce qu'il nous a donné, reconnaître nos erreurs, et c'est là qu'on demande pardon. Ikhwani akhawati fillah, qu'on se concentre dans la demande de tauba ce soir et toutes les nuits qui restent du mois de Ramadan. Il reste la moitié, qu'on demande un tauba, mais sincèrement, pas avec des formules uniquement, mais avec le cœur. Et on va s'arrêter, on était très long, on avait prévu pour aujourd'hui 3 ou 4 hadiths sur le Tawba, mais ça ne va pas être possible, peut-être dans un autre audio, un autre jour, mais vous savez, pendant ce confinement, il y a beaucoup de khair qui se dégagent. Parmi les khair, parmi les bienfaits qu'on découvre, qu'on redécouvre, et les apports spirituels, on va se focaliser sur un apport spirituel, je pense que maintenant, chacun d'entre nous, on va apprendre à faire dua, sincèrement et personnellement. Vous savez, très souvent, quand on est à la masjid, et ça c'est typique à l'île de la Réunion, quand on est à la mosquée, on prie derrière l'imam, salat ma'al jama'a. Quand l'imam a fini, il a cette habitude. Ce qu'ils font, c'est, ils disent, c'est mimba bi ta'lim, c'est pour que les gens apprennent à faire du'a. Et on fait du'a avec l'imam. L'imam demande, Rabbana atina fid dunya hasana, un peu comme quand on fait ceux qui sont à Mecca, à Medina, ou qui ont été, et qui font le du'a de l'huître avec l'imam, qui fait des du'a, ils disent amin. Le problème, c'est que si on le fait tout le temps, hein, d'ailleurs, l'imam, l'huître, c'est exceptionnel, c'est dans des lieux saints déjà, mais si à chaque salat, je fais du'a avec l'imam, et je me contente que de dire amin, on perd l'intérêt du doigt. Et on ne sait plus faire. Il y a beaucoup de gens qui ne savent plus faire doigt. Pourquoi? Parce qu'ils ont besoin d'assistance pour les doigts. Il faut que l'imam soit avec moi pour faire doigt. Et ces mêmes personnes, quand ils vont au Hajj, lors du Wukuf Arafat, ils ont besoin d'un imam qui fait doigt en congrégation pour eux. Autrement, ils ne peuvent pas faire doigt. Mais c'est un niveau calamiteux. C'est terrible. C'est terrible d'en arriver à ce niveau où je ne sais plus comment parler à mon Seigneur, comment m'adresser à lui, comment lui dire ce dont j'ai besoin. Et donc là, en confinement, on est obligé de faire des doigts par nous-mêmes. Et c'est un grand khair que chacun apprenne ou apprenne de nouveau à parler, à se confier à Allah et à lui demander ce qui nous est cher. Qu'Allah Rabbul Izzah nous pardonne nos manquements, nous donne à tous la possibilité de revenir vers lui avec sincérité et nous permet de profiter de ces 15 jours du mois béni. Ma tawfiq illa billah. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيراً